Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes en direct dans votre émission Sortez sur Radio Campus 99.5. Et aujourd'hui, même si d'habitude nous n'avons pas de chroniqueur, on va commencer avec une petite chronique de Bérénice qui est en stage avec nous actuellement. On se retrouve juste après, on vous laisse profiter de cette chronique et après on se retrouve avec nos invités et plus d'informations.
Aujourd'hui, je vais vous parler de la Société Protectrice des Animaux, la SPA, qui est la première association de protection animale en France. Elle a été créée en 1845 et sa première fonction était de protéger les chevaux que les cochers maltraitaient. Actuellement, son but est de lutter contre la maltraitance et les abandons, recueillir et héberger les animaux abandonnés, perdus ou maltraités, et de leur trouver un foyer. Elle soigne aussi les animaux des propriétaires démunis. Pour faire évoluer la cause animale, la SPA essaye de sensibiliser le grand public, surtout les jeunes, et de responsabiliser les propriétaires d'animaux. Elle a de nombreux combats, comme la lutte contre les corridas, l'abattage sans étourdissement, l'expérimentation animale, les cirques, les fourrures et bien d'autres. En quelques chiffres, la SPA, c'est 62 refuges, 4000 bénévoles et 660 salariés pour s'occuper des 44 147 animaux recueillis. En 2018, 38 129 animaux ont été adoptés.
Bonjour à tous les amis et de retour sur le plateau de Sortez. Vous venez d'écouter All Night de Parov Stellar. Eh bien maintenant, je me tourne vers Philippe Ouzounian. Bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes venu parce que vous êtes dans la compagnie L'Échappée Belle, que d'ailleurs avec Léo on a eu le plaisir de voir sur scène lors des 10 ans du service civique. Enfin quelque chose comme ça, un événement.
C'était pas... J'ai plus le nom, mais c'était bien.
C'était
voilà.
Super.
Voilà le résumé.
Du coup, on a décidé
cool.
de
l'essentiel, c'est que vous soyez content.
Oui, complètement. Voilà. Très intéressant. On y reviendra d'ailleurs sur... On y reviendra en tout cas. Alors Philippe, du coup, la première question que je voulais vous poser est plutôt générale. C'était par rapport à votre passion, le théâtre. Pourquoi c'est
grande
l'une
question.
En tout cas de vos passions. Et je me demandais surtout, avez-vous senti votre personnalité évoluer avant et après vous êtes mis au théâtre?
Voilà, c'est une vaste question.
Exactement.
Alors, avant de répondre, je voudrais féliciter Bérénice pour sa chronique, vrai. Parce que, voilà, une voix très claire, bien articulée, et c'est vrai que pour nous, gens de théâtre, c'est important. Et voilà, c'est donc une attention particulière à dire un texte, une chronique radio, et c'est pas facile, a priori, de parler dans un micro.
C'est vrai.
C'est pas naturel, en tout cas. Bravo.
Merci.
Alors, pour revenir, pour parler de moi, puisqu'en fait, c'est ce que vous me demandez.
Vous êtes l'invité,
voilà.
Oui.
Bon, en réalité, mais vous ne le répéterez pas, je suis né dans une famille d'artistes. Voilà. Mon père avait été comédien, il était auteur dramatique, il est journaliste. Mon oncle, le frère de ma mère, était un des grands comédiens de français, cinéma et théâtre, que votre génération ne connaît plus, mais qui s'appelait François Perrier, qui était un des géants du cinéma et du théâtre dans les années 30, 40, 50, 60. Et puis, beaucoup d'autres personnes de ma famille étaient aussi des artistes de théâtre, donc je n'ai aucun mérite d'avoir baigné dans ce milieu, d'avoir évolué, appris mon métier. En fait, j'ai appris mon métier en voyant des milliers de pièces de théâtre, puisque en plus j'avais la chance d'habiter sur Paris et de ne jamais payer, donc puisque mes parents connaissaient tous les théâtres. Donc c'était facile. Et je ne me suis jamais posé la question de quel métier j'allais faire. Voilà, pour moi, c'était tout à fait naturel.
Et qu'est-ce que vous a apporté le théâtre, à votre avis ?
Oh là, ce qu'il m'a apporté, c'est d'abord de rencontrer des gens. Ouais. Voilà. À travers notre métier, c'est cette chance que nous avons d'aller, de jouer sur des scènes, certes. Là, on n'a pas énormément de contact avec le public, parce qu'une fois qu'on a fini de jouer, le public s'en va. Mais nous montons, et à travers la compagnie dont nous parlerons tout à l'heure, et c'est aussi ce qui me motive, ce qui me plaît, c'est d'aller rencontrer le public. Alors, soit le public habitué, soit a fortiori, et encore avec plus d'énergie, le public qui ne va jamais au théâtre. Parce que, culturellement, socialement, ce sont des barrières, parce que on ne va rien comprendre si on va au théâtre, parce que c'est trop cher, parce que c'est pas pour nous, et puis on va se moquer de nous si on va au théâtre, ou au musée, ou ailleurs. Et donc, nous, on va vers ce public-là. Et donc, ça m'a appris à connaître les gens, et à aimer les gens.
Très bien. Vous avez... la compagnie s'est créée entre 2007 et 2008.
Oui.
C'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait avant ? Vous avez tenu d'autres compagnies ?
Alors, j'ai en effet, oui, en 2001, j'ai créé une compagnie qui s'appelait à l'époque Chemin de Loire, parce que je montais un projet très lourd, très important sur la thématique de la Loire, puisqu'au printemps 2002, j'ai descendu la Loire à pied, de la source à l'embouchure. Pendant 3 mois, j'ai fait 1000 km à pied. Et chaque soir, je lisais des textes dans les bibliothèques ou dans les maisons de retraite sur la Loire, sur les gastronomies locales, etc. Donc, cette compagnie a travaillé sur la thématique de l'eau, des paysages et de la Loire pendant 7-8 ans. Et en approchant 2007-2008, on a eu envie de faire d'autres choses, parce que voilà, de monter d'autres spectacles sur d'autres thématiques, et là il a fallu changer le nom de la compagnie, qui est devenue L'Échappée Belle. Et auparavant, parce que je le dis, ça a aussi fait partie de ma formation, depuis il y a une trentaine d'années, j'ai créé une société de production de spectacles spécialisée dans l'humour, et j'ai été responsable de programmation de plusieurs festivals d'humour en France. Et l'humour, je n'aime plus du tout les spectacles d'humour maintenant. Ils se ressemblent tous. C'est tous des stand-up, des one-man show. Voilà, et je me suis éloigné de cet univers.
Et vous vous êtes rapproché de quoi alors ? C'est quoi la nouvelle vision un peu ?
C'est une vision humaniste du spectacle. Alors, il est vrai que dans la compagnie Les Chapelles, nous avons un spectacle d'humour. Voilà, Didier et moi, Didier que vous avez vu sur scène, oui. Didier Marin, avec qui je joue depuis 15 ans maintenant, nous jouons un spectacle burlesque qui s'appelle « Mais qui est Don Quichotte ?». C'est une reprise d'un texte qui a été écrit il y a une vingtaine d'années et qui est un texte intelligent, on va dire, un petit peu littéraire, mais surtout burlesque, et qui amène, qui parle du monde, qui parle de du danger, de l'évolution du monde, etc., à travers des scènes drôles. Voilà, donc ça, c'est une forme d'humour qui me plaît, qui m'a toujours plu, que j'ai beaucoup de mal à retrouver aujourd'hui dans les stand-up.
Très bien. Une des choses intéressantes dans la compagnie, et si vous pouvez nous expliquer un peu le concept, c'est les spectacles documentaires.
Oui.
C'est peut-être ça maintenant la nouvelle...
Oui, voilà. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est effectivement la nouvelle ligne artistique de la compagnie. C'est-à-dire que nous avons monté en 2014, nous avons créé un spectacle sur l'illettrisme, qui reste à ce jour le seul spectacle en France sur cette thématique. Alors c'est vrai que quand les auditeurs vont entendre ou ont entendu le mot illettrisme, ils vont se dire mais pourquoi faire des gens qui ne savent ni lire ni écrire, à quoi bon, etc. Et parce qu'en fait nous avons travaillé pendant 7 ans dans le cadre de formations organisées par la Croix-Rouge à destination de ces personnes-là, qui ne savent ni lire ni écrire. Nous animions des ateliers théâtre et des ateliers livres et contes que j'animais moi-même, et nous avons rencontré des gens extraordinaires, d'une très grande générosité, d'une grande intelligence, parce que pour dissimuler pendant toute sa vie qu'on est illettré, qu'on ne sait ni lire ni écrire, il faut être très intelligent. Et nous nous sommes demandé comment rendre hommage à ces personnes-là, et tout simplement, pour nous, c'était de monter un spectacle. Alors, on a beaucoup travaillé, on a rencontré, on a fait des interviews, nous sommes documentés, renseignés, etc. Et puis, le deuxième spectacle documentaire, c'est un spectacle sur la citoyenneté, donc qui est celui que vous avez vu, et qui procède un petit peu de la même démarche. Alors là, c'est un thème sociétal dont tout le monde parle, et chacun ici dans le studio, mais aussi chaque personne dans la rue, a une définition ou en tout cas une image très précise ou parfois très floue de ce qu'est la citoyenneté. Et donc nous abordons différentes thématiques, différents modes, manières d'en parler, qui fait que chacun s'y retrouve plus ou moins. Voilà. Et alors le spectacle documentaire, pour nous, c'est une forme très courte de 35-40 minutes, constitué de scénettes qui se successivent de 2 ou 3 minutes chacune. Voilà, de manière à... il n'y a pas de fil rouge, il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de ligne dramatique. Ce sont des scénettes les unes derrière les autres qui parfois n'ont rien à voir scéniquement les unes avec les autres.
Est-ce que c'est en ça, en fait, quelque part, que votre compagnie s'inscrit dans une démarche, alors je cite sur votre site internet pour le coup, visant à valoriser les valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est marqué.
Oui, c'est marqué, en fait, c'est parce qu'effectivement, nous avons cherché comment identifier la compagnie. Voilà, parce que nous faisions ce travail en direction de publics en grande difficulté, sociale, culturelle, de publics empêchés. Aujourd'hui, je crois qu'on dit public éloigné, bon, ça change tout régulièrement, mais ce sont les mêmes personnes. Et il nous a fallu, pour nous d'abord, définir quelle était notre démarche. Alors c'est une démarche philosophique, humaniste, citoyenne. J'avais même écrit un texte qui s'appelait, que j'avais intitulé en deux mots, bioéthique, c'est-à-dire l'éthique de la vie, bio. Voilà. Et voilà, et c'est ainsi que les comédiens, les deux comédiens et les 4 comédiennes de la compagnie participent aux créations et au travail de la compagnie. Et nous sommes en cela aussi accompagnés par nos administrateurs, qui sont bénévoles. La présidente, le trésorier, le secrétaire, etc., et d'autres, et qui partagent totalement ces valeurs et qui nous ont aussi aidés à construire ce projet. Donc les valeurs émises par la Déclaration des droits de l'homme sont essentielles dans la construction de notre travail.
En tout cas, il y a quand même l'envie de véhiculer une idée, de faire réfléchir, en tout cas sensibiliser le public quand il vient vous voir.
Oui, nous pensons que le théâtre est un vecteur d'éveil, voire d'éducation, de formation culturelle, parmi d'autres. C'est très complémentaire, évidemment. Et à travers les messages ou les thèmes que nous abordons, nous essayons de d'éveiller, nous essayons de faire réagir les gens aussi en fonction de ce qu'ils sont, de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils pensent être aussi leur vérité. Pour nous, c'est notre vérité, c'est pas la vérité. Et tout cela, les deux spectacles documentaires dont nous parlons, sont toujours suivis d'un échange avec le public pour aussi partager notre travail, expliquer comment nous avons conçu chaque spectacle, pourquoi, et aussi écouter les questions, les remarques. On a le droit d'aimer, on a le droit de ne pas aimer un spectacle, mais à ce moment-là, il faut dire pourquoi.
Bien sûr.
Et donc d'apprendre nous-mêmes aussi comment réagit le public, et parfois le public nous a donné des bonnes idées.
Et je crois me souvenir d'une petite histoire que vous aviez racontée justement pendant les 10 ans. C'était le fait que tout le monde s'est mis à chanter la Marseillaise.
Ah oui.
À la fin.
Oui, c'était au printemps dernier, je crois que c'était au printemps 2018. Ah non, on est en 2019 là, donc c'était au printemps 2019. Lorsque nous avons joué ce spectacle à l'espace Jacques Villeray, aux Fontaines, il y avait deux classes du collège et il y avait une quarantaine d'adultes, des habitants du quartier. Et à la fin du spectacle, parce que nous parlons des valeurs de la République, nous finissons le spectacle par une version manouche de la Marseillaise interprétée par Django Reinhardt. C'est aussi un hommage que nous faisons aux gens du voyage. Et une jeune femme d'origine soudanaise s'est levée et dans un français approximatif, parce qu'elle venait d'arriver en France depuis quelques semaines, elle était en apprentissage de la langue, nous a demandé, voilà, j'ai un souhait, j'aimerais que tout le monde chante la Marseillaise. Et ça a été un moment extraordinaire. Tous les élèves se sont levés, toute la salle s'est levée, et les 120-130 personnes ont entonné la Marseillaise. Et venant de la part d'une étrangère, c'était une merveilleuse leçon de citoyenneté. C'était un moment magique.
En tout cas, on en ressort avec quand même un peu de chaleur au cœur, mine de rien, après ces spectacles. Chloé, tu voulais ajouter quelque chose ?
Moi, l'anecdote qui m'a beaucoup touchée, c'est une de vos comparses qui nous l'a racontée. Et j'avoue que, en ayant entendu dans le public, on était tous un peu pareil, l'histoire du jeune homme migrant qui est parti avec ses copains et qui est arrivé sans.
Alors, c'était le même jour, en plus, que cette personne-là. Alors, est-ce que c'était le matin ou l'après-midi ? Je ne sais plus, mais c'était le même jour. En effet, vous avez raison, à l'issue de la représentation, un jeune garçon, alors malien, je crois, de mémoire, de 14-15 ans, est venu nous voir et nous a dit, voilà, moi j'ai besoin de vous parler de moi, j'ai besoin de vous parler de ce que j'ai vécu. Il avait traversé une partie de l'Afrique, il avait traversé la mer Méditerranée, et il était le seul rescapé de tous ses camarades avec lesquels il avait quitté son pays. Et ça a été aussi là une très grande émotion, parce que voilà, de venir nous voir, nous, qui ne sommes que des gens normaux, on va dire, voilà, simples, il a eu besoin, alors peut-être que, voilà, parce qu'aussi nous sommes comédiens et que nous recevons les émotions et nous aimons les partager. Mais il a eu besoin de nous parler et il n'y avait rien à dire, il y avait juste à écouter. Son émotion, son malheur, sa tristesse encore et son désir de vivre en France. Il n'avait pas choisi la France par hasard parce que ça faisait bien. Non, ces gens-là choisissent la France pour les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, où on pourrait rajouter aujourd'hui laïcité, mais c'est pas si simple, finalement, de parler de laïcité en France, et puis la Marseillaise, et puis les valeurs humanistes des philosophes français. Voilà, tout ça sont des arguments qui font que les gens ont envie de venir dans notre pays. Après, il y a le côté artistique, voilà, il y a plein de choses. Hein. Donc, c'est... Voilà, mais moi-même, mes grands-parents qui étaient arméniens ont fui le génocide des Arméniens perpétré par les Turcs et ils sont venus se réfugier en France. D'autres sont allés au Moyen-Orient, d'autres, mais beaucoup d'Arméniens venaient en France parce qu'on était, ils étaient attirés par la culture de ce pays qu'il ne faut surtout pas ignorer. Oui.
Merci beaucoup Philippe Ouzounian. On se retrouve tout de suite après une pause musicale.
Une pause musicale qui va très bien avec ce qu'on vient d'évoquer parce que c'est pas fait exprès, ce sera Toto Africa.
D'accord.
Et de retour sur le plateau de Sortez, toujours avec Philippe de la compagnie L'Échappée Belle. Alors du coup, prochaine question pour revenir à notre intéressante discussion. Avez-vous, prenez-vous un parti pris sur certains sujets de vos spectacles où votre rôle est plutôt de sensibiliser le public pour qu'il se fasse sa propre idée des choses?
Oui, c'est plutôt cette deuxième version qui nous conduit, parce que exposer nos propres idées, qu'elles soient politiques, religieuses, philosophiques et autres, ça n'intéresse personne. Donc, et ça n'apporte rien, ça apporte rien au débat. En revanche, d'exposer plusieurs opinions dans lesquelles chaque spectateur peut choisir celle qui lui convient, Ça nous intéresse. Nous sommes quatre sur scène. Nous avons chacun sur certains sujets, des opinions différentes. On ne va pas dire divergentes, mais en tout cas différentes. Mais ça, c'est notre problème à nous. Alors, lorsque nous travaillons en répétition, effectivement, chacun peut être amené à dire « Ben oui, mais moi, je ne suis pas d'accord avec telle option parce que j'estime que, etc. » Et après, on fait une synthèse en disant « Bon, est-ce qu'on expose chaque opinion individuelle? Mais à ce moment-là, le spectateur ne sait pas qui pense quoi. On peut très bien, moi je me sens tout à fait capable de défendre une opinion que je ne partage pas, mais scéniquement, en tant que personnage de théâtre.
Pour rentrer dans un rôle et...
Voilà, si on me demande de jouer un gros con sur scène, je suis prêt à jouer un gros con sur scène, parce que je dois l'être un peu quand même, donc il suffit que je me force. Voilà. Par exemple, je prends un exemple de ce très grand comédien allemand que j'aime beaucoup, le nom m'échappe évidemment, qui a joué au cinéma le rôle d'Hitler. C'est pas un nazi, le comédien. Mais, voilà, il faut bien jouer ces personnages-là pour montrer comment ils étaient.
D'ailleurs, ce que je trouve très intéressant, excusez-moi si je vous...
Non, je vous en prie.
C'est que parfois dans les films, quand j'étais plus jeune d'ailleurs, par exemple un personnage d'Hitler, je n'aurais pas aimé l'acteur et je me rendais pas compte que c'était pour ça qu'il jouait bien, en fait. et ça, je trouve ça très intéressant du coup de quitter sa personnalité pour se mettre au service de quelque chose en tant qu'acteur... qui peut parfois déplaire, mais pour la bonne cause, en fait, pour l'histoire.
Oui, voilà, parce que ces personnages-là, ces opinions, pour parler d'une manière plus générale, existent. Donc, si on n'en parle pas, nous-mêmes, nous faisons de la censure, en reprochant aux autres d'en faire, d'ailleurs. Voilà, pour ne citer personne. Et donc, c'est aussi en donnant la parole, ou en laissant la place à toutes sortes d'opinions que on permet au public de se faire la sienne propre. Voilà. C'est dans ce spectacle-là sur la citoyenneté. Encore une fois, c'est compliqué de parler de citoyenneté parce que nous y mettons chacun des ingrédients différents. Et quand on parle de laïcité, c'est même encore plus compliqué. Oui. On ne parle pas de religion, puisque nous sommes dans une république laïque, mais on aborde le fait religieux. Quand on parle de l'égalité femme-homme, voilà, moi je dis, en forme de boutade et de plaisanterie grossière, je dis, même les femmes, elles sont égaux, pour faire réagir les gens. Et pourquoi il dit ça, le mec, là, au Café du Commerce?
C'est ce qui s'est passé dans la salle exactement à ce moment-là. On a eu plein de... Voilà. Dans le fond.
Et tant mieux.
Bah, ça a fonctionné.
Quand on parle du vote blanc et que je dis, est-ce que les Noirs aussi ont le droit de voter blanc? Pour faire réagir les gens. C'est quelque chose que je ne pense évidemment pas.
Oui.
Voilà. Mais des gens le pensent. Mmh. Des gens le disent au Café du Commerce. Ou dans la rue. Bon. Donc, ces opinions, elles existent. Et après, le fait de les exposer permet d'en débattre. Donc c'est notre rôle, nous, de comédiens, qui ne sommes pas nous-mêmes sur scène. Moi, je ne suis pas Philippe Ouzoulian sur scène et ça n'intéresserait personne. Donc, de démettre des opinions et de leur laisser le champ ouvert pour pouvoir ensuite entamer la discussion et faire réagir les gens.
Bah, c'est justement dans ce contexte de discussion sur la fin que je trouve ce spectacle prend tout son sens, dans le sens où, bah, déjà, quand on parlait de point de vue tout à l'heure, C'est vous le mettez vous-même en place avant d'écrire le spectacle de, vous l'avez dit, des points de vue divergents, et vous arrivez à vous mettre d'accord, à réfléchir et à avoir cette intelligence de ne pas dire non, j'ai raison, point. Et je trouve ça vachement bien. Comme le fait de pas, comme je disais hors antenne, de pas faire culpabiliser l'auditeur, enfin l'auditoire, dans le message que vous essayez de faire passer, et ce qui malheureusement est de plus en plus le cas quand on parle des sujets un peu tendus comme ça, quoi.
Voilà, alors ça c'est la vertu du théâtre, à mon sens, de laisser toutes les opinions s'exprimer. Alors certains auteurs ou certains acteurs veulent, et ils ont raison, mettre en avant leurs propres opinions, parce qu'ils estiment devoir les défendre. Parfois, il y a des grosses polémiques avec certains humoristes, notamment, mais ça, c'est leur problème. On n'a pas à leur interdire de les exprimer. C'est ensuite, c'est un long travail, et c'est compliqué de faire comprendre au public qu'il y a certaines opinions qu'on peut admettre, d'autres qui sont plus difficiles à admettre.
Mais une opinion reste une opinion, il faut aussi... Ouais. Après, c'est aussi aux comédiens, à l'humoriste, tout ça, de dire que c'est la sienne d'opinion et que ce n'est pas une vérité générale. Et voilà. Certains oublient de le préciser aussi.
Mais la liberté d'expression, quand même, favorise une société saine, mine de rien.
Tout à fait. Ah oui, exactement. Dans beaucoup de pays, on n'a pas le droit de... Voilà. Même des pays soi-disant démocratiques, parce que les gens vont voter, voilà, on n'a pas le droit d'exprimer son opinion personnelle.
Voilà.
Est-ce que ce sont vraiment des démocraties ? Nous, on a encore la chance, en France, de pouvoir dire ce que l'on pense.
Plus que dans d'autres pays, oui, complètement. Alors du coup, par rapport à ce, en gros, ce qui englobe le spectacle documentaire, je me demandais vers quel public vous tourniez. Est-ce qu'il y a des publics plus, qui n'iraient pas au théâtre, comme vous disiez au départ, de leur plein gré ?
Alors... au départ, c'est effectivement le public que nous visions, notamment d'aller jouer dans ce qu'on appelle les quartiers prioritaires de la ville, quartiers sensibles. Et en cela, le spectacle est financé par la préfecture d'Indre-et-Loire et la métropole Tours-Val-de-Loire depuis 2 ans, et nous espérons pour une 3e année, pour aller vers ces publics qui n'ont pas un accès naturel à la culture. Ne serait-ce que de rentrer dans un musée, c'est pas pour eux, ils n'y pensent même pas d'ailleurs, voilà. Ou alors ils se l'interdisent. Et donc d'aller leur parler, nous jouons dans toutes sortes de salles, on joue pas sur scène, sur une scène de théâtre, on joue pas dans un théâtre, parce que là aussi ça peut être un frein au public de dire « Oh là là, mais moi je ne vais pas rentrer dans le théâtre, comment... d'abord je ne sais pas où il est, comment on fait, se sentir observé, voilà, parfois. Hein, »
C'est peut-être aussi ce qui fait que le public se sent plus en proximité et a plus de facilité à accepter le message.
Jouons dans des gymnases, nous jouons dans des salles des fêtes, nous jouons dans des salles polyvalentes, peu importe, parce que, comme vous le dites, voilà, très justement, le public se sent concerné, parce qu'il n'est pas, il n'y a pas une barrière, et il n'y a pas la barrière de la scène et de la salle, il n'y a pas la barrière de la lumière qui nous éclaire, nous, et qui plonge le public dans le noir. Le public, il est presque autant éclairé que nous. Nous le voyons, nous voyons ses réactions, nous entendons aussi ses réactions, et cette ambiance lumineuse fait que nous sommes tous dans la même ambiance, dans le même lieu, voilà. Et c'est cette manière-là qui nous intéresse aussi, avec ces spectacles-là, d'aller vers des publics qui n'ont pas cette facilité naturelle d'aller au théâtre, au spectacle.
Je crois me souvenir que vous aviez dit aussi que vous jouiez dans les prisons.
Oui, nous jouons aussi dans les prisons. Le spectacle sur l'illettrisme, nous l'avons joué dans plusieurs prisons. Parce que, autant le taux d'illettrisme en métropole est de 7-8% dans la population active, en prison il est de 30%. Dans les dom-toms, il est même encore plus élevé que cela. Donc nous allons vers ces gens-là. Parce que, pourquoi est-ce que la culture... si on peut parler de culture, hein, disons le spectacle, on va dire, ne rentrerait pas dans les prisons. Et je me rappelle en avoir parlé aussi dans la salle, nous avons appris, en allant rencontrer les détenus, que ce sont des choses qui peuvent arriver à tout le monde, oui, et que nous n'avons pas à juger ces gens-là. Quoi qu'ils aient fait, même les pires choses, nous n'avons pas à les juger, parce qu'on ne les connaît pas. On ne connaît pas leur vie, on ne connaît pas leur passé, leur enfance, et que un jour où nous aurions trop bu, un jour où nous aurions trop fumé, un jour où nous aurions pété les plombs, ça peut nous arriver.
Et comme vous l'avez conclu, c'est des êtres humains avant tout.
Et ce sont aussi des êtres humains, même si certaines personnes disent que ce ne sont plus des êtres humains. Mais quand on les voit, on leur serre la main, on les regarde droit dans les yeux et nous avons des vraies conversations avec eux.
Et ça évite l'invisibilisation de ces personnes qui sont là malheureusement trop invisibilisées parce que vu que ce sont derrière les barreaux, ce ne sont plus des êtres humains. Voilà. Je pense que ça leur apporte un peu de chaleur aussi indirectement, quoi. Enfin,
directement,
tout court.
Alors nous, on nous l'a dit, la première fois que nous sommes rentrés en milieu carcéral, l'enseignant nous a dit « Soyez très vigilants, vous leur serrez la main parce qu'ils vont venir vous serrer la main. Eux n'ont pas le droit de serrer la main aux gardiens, par exemple. » Et pour eux, c'est important. C'est un contact charnel, corporel. Et vous, en leur disant bonjour, vous les regardez droit dans les yeux. Parce qu'ils ne se regardent jamais. Même entre eux, ils ne se regardent pas dans les yeux. Et donc là, ils attendent ça de personnes venant de l'extérieur. Ils ont besoin de cette reconnaissance. Et voilà. Et pour nous, ce sont des aventures humaines très fortes aussi. Très fortes, oui.
Alors, très intéressant parce que ça rebondit un peu sur une phrase de Claude Roy, Roy, qui est mise en avant sur votre site, c'est « L'art est le plus court chemin d'un homme à un autre ».
Oui, c'est vrai, oui. Merci d'avoir noté cette citation. Claude Roy, qui était un grand poète français, un jour, dans un de ses livres, j'ai lu ça. L'art est
le plus court chemin d'un homme.
Excusez-moi, oui. C'est tout simple. C'est tout simple.
Complètement.
Voilà. Et l'art, c'est quoi? C'est pas forcément l'art exposé dans les musées. C'est aussi l'art de la vie. C'est l'art de vivre. Une belle assiette cuisinée avec plaisir, etc. C'est une forme d'art parce que la personne qui l'a réalisé y a mis tout son amour, toute son âme. Il paraît-il que même une banane scotchée au mur, c'est de l'art. Alors allons-y. Hein.
La personne qui la mange peut être un artiste. C'est ça.
Bien joué. Mais du coup, c'est tout de même cet aspect de partage qui rentre en compte d'un homme à l'autre. L'art, c'est une passerelle qui simplifie énormément les actions et les moyens de partager, en fait.
Et alors, je vais vous faire une autre citation que j'ai lue la semaine dernière dans un livre de Christian Bobin, qui m'a aussi... Je suis tombé à genoux, assis, le livre que je tiens dans les mains parfois me sourit.
C'est beau.
C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Et quel que soit le livre, ça peut être un livre de cuisine, ça peut être un magazine, ça peut être une BD. Le livre que je tiens entre les mains parfois me sourit.
Et vous entendez quoi alors, vous, par ça?
Moi,
concrètement,
l'humanité entière.
Ok.
La civilisation humaine.
Ok, oui, c'est-à-dire que...
C'est tout, pas plus simple, okay, pas plus compliqué. Voilà.
Très bien.
Parce que, encore une fois, pour revenir à ces personnes en situation d'illettrisme, j'ai même animé des ateliers d'écriture avec des illettrés. Et pour moi, c'était une aventure magnifique, parce que j'ai appris beaucoup de choses. Comment animer un atelier d'écriture avec des personnes qui ne savent ni lire ni écrire? Donc tous les jours, il fallait que j'imagine des choses, que je crée pour eux. Pour ces personnes, pour elles. Et au bout de 3 mois d'atelier, même avant la fin du cycle, une personne m'a dit « Philippe, tu sais, hier j'ai pris un livre à la médiathèque. »
Oh bien.
Waouh.
Ah, voilà. Ça doit secouer. Hein.
À 50 ans, la personne a, pour la première fois de sa vie, emprunté un livre à la médiathèque.
Ah,
ben voilà. Moi, j'estime que ça y est, j'ai fait ma mission d'homme sur Terre, c'est tout. Voilà.
Ouais, c'est beau.
Il suffit pas plus, c'est pas plus compliqué que ça parfois. Oui.
Et vous avez de la chance, vous ressentez plus de frissons que la moyenne des Français.
Ah, j'en sais rien. J'en sais rien, mais en tout cas, je sais pourquoi je vis et je sais pourquoi je fais ce métier de comédien.
Carrément. Ouais. Pour finir, j'aurais aimé que vous nous parliez un petit peu de votre lieu de résidence.
Ah oui, ah oui. Oui, c'est un lieu très, très particulier, très, très riche. Alors nous, la compagnie, depuis pour la cinquième année maintenant, est accueillie en résidence permanente à l'ITEP de Mettray. Alors l'ITEP, c'était, parce qu'elle a encore, cet établissement a encore cette image qui lui colle, c'était autrefois une colonie pénitentiaire. Donc, qui a été créé, je fais très vite, hein, au début du 19e siècle, c'était une alternative à la prison pour des jeunes délinquants. Et dans les années, Jean Genet, qui est l'auteur des Bonnes, qui est un des plus grands dramaturges français, y a passé entre l'âge de 16 et 19 ans, 3 ans d'enfermement dans cette colonie pénitentiaire, parce qu'il avait fait, il avait volé à l'étalage, etc., plusieurs fois, certes, mais voilà. Et donc nous sommes accueillis dans un grand local où nous pouvons travailler, répéter, animer des ateliers d'écriture, des ateliers théâtre, pardon, avec ces jeunes qui ont entre 15 et 20 ans, qui sont en totale exclusion sociale, psychologique, qui ont, pour certains, nous racontent des vécus familiaux terribles, et ils sont là pour apprendre des métiers manuels, pour se réapprendre aussi eux-mêmes. Et donc nous en recevons chaque semaine plusieurs en atelier théâtre. Et la grande récompense pour nous, c'est quand on les croise dans la rue, ils traversent la rue et viennent nous dire bonjour. Ils sont pas obligés. Voilà.
C'est vrai.
Ils sont
Parce
pas obligés.
Qu'il y a du respect.
Et nous, on se dit au moins, là aussi, nous servons à quelque chose. Mmh. Il y a de la reconnaissance, parce qu'il nous apporte beaucoup aussi.
Oui, sans s'en rendre compte, c'est ça qui est beau.
Et oui, il nous apporte beaucoup. Oui, oui, on a une chance énorme de faire ce métier-là. Tous les métiers humains, comme le métier d'enseignant, comme le métier de... Voilà. C'est...
Où est-ce qu'on pourra vous retrouver sur scène prochainement?
Ah, alors maintenant, ça va être le dimanche 19 janvier à Notre-Dame-d'Oé, donc ce spectacle sur la citoyenneté, là, qui est ouvert à tout public. C'est dans l'après-midi, je crois, 15h30, me semble-t-il, de mémoire. Ensuite, nous allons revenir dans les quartiers le 27 janvier. Après, on a plusieurs en février aussi, mais je n'ai pas les dates en tête. Dans la compagnie, nous avons 7 spectacles. Donc, les auditeurs peuvent taper compagnie, donc CIE-échappée belle, tout attaché avec deux P à échapper, s'il vous plaît, et .fr, donc CIE-échappée belle.fr. Et là, au fur et à mesure, nous affichons le programme des semaines qui viennent, et également les auditeurs peuvent lire quelques lignes, voir quelques images de nos différents spectacles. Voilà. Et laisser un message, s'ils le souhaitent, sur l'onglet contact. Pour nous, ce sera très, très chouette de lire d'éventuels messages.
Parfait. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Ozougnan, d'avoir participé.
Merci à vous de m'avoir invité.
C'était merci pour ce que vous faites pour les autres, surtout. Et puis, on va partir sur une petite musique avant l'agenda, du coup. Ce sera du Kendrick Lamar avec King Kuta. I don't want you monkey mouth motherfucker sitting in my throne again. I'm mad, but I ain't stressing. True friends, one question. Bitch, where you and I was walking? Now I run a game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. Kunta, black man taking no losses. Oh, yeah. Bitch, where you and I was walking? Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off him. When you got the yams,
what's the yams?
The yam is the power that beat. You can smell it when I'm walking down the street.
Oh yes we can, oh yes we can.
I can dig rapping, but a rapper with a ghost rider. What the fuck happened?
Oh no,
I swore I wouldn't tell.
But most of y'all share bars like you got to buy the bunk in a two-man sale.
A two-man sale.
Something's in the water.
Something's in the water.
And if I got a brown nose for some gold, then I'd rather be a bum than a motherfucking ball.
Oh yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
King Kunta,
black man taking no losses.
Oh yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
King,
when you got the yams.
The yams.
The yam brought it out of Richard Pryor. Manipulated Bill Clinton with desires. 24/7, 365 days times two. I was contemplating getting on stage just to go back to the hood, see my enemy and say,
oh yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking.
King Kunta,
everybody wanna cut the legs off.
King Kunta,
black man taking no losses.
Oh yeah.
Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking.
King Kunta,
everybody wanna cut the legs off.
Goat mouth mammy fucker.
I was gonna kill a couple rappers, but they did it to themselves. Everybody's suicidal, they didn't even need my help. This shit is elementary, I'd probably go to jail if I shoot at your identity and bounce to the left. Stuck a flag in my city, everybody's screaming Compton. I should probably run from air when I'm done, to be honest. And I put that on my mama and my baby boo too. 20 million walking out the court building, woo woo. Oh yeah, fuck the judge, I made it past 25. And there I was, a little nappy-headed nigga with the world behind him. Life ain't shit but a fat vagina. Screaming, Annie, are you okay? Annie, are you okay? Limo tinted with a gold plate, straight from the bottom. It's the belly of the beast. From a peasant to a prince to a motherfucking king.
Oh yeah?
Bitch, where you and I was.
By the time you hear the next pop, the funk shall be within you.
Now I run the game, got the whole world talking. King Kunta, everybody wanna cut the legs off.
King Kunta,
black man taking no losses.
Oh yeah?
Bitch, where you and I was walking. Now I run the game, got the whole world talking.
King Kunta,
everybody wanna cut the legs off.
I remember you was conflicted, misusing your influence.
What you gon' do now? Now?
Et vous l'avez reconnu, c'est la musique de l'agenda. Donc on va partir pour cet agenda du coup du 19 décembre. On va commencer tout de suite en force avec un événement que beaucoup d'entre vous attendent depuis un petit moment sûrement. C'est le Barathon géant de Noël. Alors déjà, qu'est-ce qu'un barathon ? Déjà, le nom devrait vous donner un petit indice. Eh bien, vous voguez de bar en bar avec votre bracelet qui vous donnera des réductions ou des entrées moins chères ou un barathon. Et par exemple, comme réduction, vous avez moins 2 euros sur tous les verres ou un shot offert lors de votre première conso au Meltdown. Les bracelets seront à venir chercher de 19h à 22h au Meltdown ou au Puzzle Bar. Les bars partenaires de ce marathon sont le Rose Bonbon, le Meltdown du coup, le Puzzle, le Puis C'est Tout et le Pimps. C'est donc à partir de 19h et jusqu'au bout de la nuit. La charcuterie musicale revient à la maison rue de la Rôtisserie avec une déco encore plus folle et pleine de surprises pour lancer les fêtes de fin d'année en grande pompe. Au programme Blind Test de 20h à 2h et bar à manger jusqu'à minuit. Alors rendez-vous de 20h à 2h à la Vida Loca, 16 rue de la Rôtisserie. Et on part tout de suite avec un petit concert, ça faisait longtemps. Donc les frères Dubs sont deux curieux personnages amoureux des musiques des Balkans. Ils seront donc en concert ce soir à la Grande Ourse pour vous faire voyager à travers les étoiles. C'est donc ce soir de 20h à 21h30 à la Grande Ourse qui se trouve 39 rue Bretonneau. Pour les sudistes en perdition ou les mélancoliques de l'été, le Camden Pub a pensé à vous. Soirée pastis à 1 euro avec au programme du pastis 51 à foison, des chapeaux, des t-shirts et de la fête. Rendez-vous donc ce soir de 20h30 à 1h30 au Camden Pub, 15 rue du Grand Marché. À tout. Et comme ça faisait longtemps, je vous préviens, je vais sûrement écorcher les noms, on change pas une équipe qui gagne. Donc viens danser, mais pas que, avec Lakun Kairi, chausse tes plus belles tongs, mets ton bermuda et ta chemise à fleurs, et rendez-vous pour une winter party sous le signe du soleil. C'est donc à partir de 21h au Pale, à Tours. Et c'est tout pour cet agenda du 19 décembre. Il ne me reste à moi plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée, de vous souhaiter de bien vous amuser, de vous redire que cette émission sera en rediffusion de demain matin de 6h à 7h, que vous pourrez retrouver le podcast ce soir même sur les sites, donc le Facebook de la radio, Radio Campus Tours, le site internet www.radiocampustours.com. Évidemment, on va commencer le petit teasing parce que nous, la semaine prochaine, nous ne sommes pas là, nous sommes en vacances et oui, Noël oblige. Il se peut que le 25 décembre, Radio Campus laisse des petits cadeaux en tant qu'émission, hein, peut-être une émission de Noël, on n'en dit pas plus. Et du coup, on va se laisser, hop là, avec une dernière musique. Ce sera du coup Eminem avec The Real Slim Shady. Et puis je vous souhaite bonne soirée, je vous dis à demain.
Never seen a white person before. Jaws all on the floor like Pam, like Tommy just burst in the door. And started whooping her ass worse than before. They first were divorced, sewing her over furniture. It's the return of the... Oh, wait, no, wait, you're kidding. He didn't just say what I think he did he? And Dr. Dre said, nothing, you idiots. Dr. Dre's dead, he's locked in my basement. Feminist women love Eminem.
Chicka, 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 Slim Shady, I'm sick of him. Look at him, walking around, grabbing his you-know-what, flipping the you-know-who. Yeah, but he's so cute, though.
Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose, but no worse than what's going on in your parents' bedrooms. Sometimes I wanna get on TV and just let loose, but can't. But it's cool for Tom Green to hump a dead moose. My bum is on your lips, my bum is on your lips. And if I'm lucky, you might just give it a little kiss. And that's the message that we deliver to little kids, and expect them not to know what a woman's clitoris is. Of course they're gonna know what intercourse is. By the time they hit fourth grade, they got the Discovery Channel, don't they? We ain't nothing but mammals. Well, some of us cannibals who cut other people open like cantaloupes. But if we can hunt dead animals and antelopes, then there's no reason that a man and another man can't elope. But if you feel like I feel, I got the antidote. Women, wave your pantyhose, sing the chorus, and it goes.
I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up.
Will Smith don't got a cuss in his raps to sell records. Well, I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of you critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? So you guys can just lie to get me here, so you can sit me here next to Britney Spears? You shit, Christina Aguilera better switch me chairs, so I can sit next to Carson Daly and Fred Durst and hear him argue over who she gave head to first. Little bitch put me on blast on MTV.
Yeah, he's cute, but I think he's married to Kim.
I said download her audio on MP3 and show the whole world how you gave him an MBD. I'm sick of you little girl and boy groups, all you do is annoy me, so I have been sitting here to destroy you. And there's a million of us just like me, who cuss like me, who just don't give a fuck like me, who dress like me, walk, talk, and act like me, and just might be the next best thing, but not quite me.
I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up.
I'm like a head trip to listen to, cause I'm only giving you things you joke about with your friends inside your living room. The only difference is I got the balls to say it in front of y'all, and I don't gotta be false or sugarcoated at all. I just get on a mic and spit it, and whether you like to admit it, I just shit it better than 90% of you rappers out can. Then you wonder how can kids eat up these albums like volumes. It's funny, cause at the rate I'm going when I'm 30, I'll be the only person in a nursing home flirting, pinching nurses' asses when I'm jacking
shady lurking. He could be working at Burger King, spitting on your onion rings. Or in the parking lot circling, screaming, I don't give a fuck, with his windows down and his system up. So will the real shady please stand up and put one of those fingers on each hand up and be proud to be out of your mind and out of control. And one more time, loud as you can, how does it go?
I'm Slim Shady, yes, I'm the real shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up. Cause I'm Slim Shady, yes, I'm the real shady. All you other Slim Shadys are just imitating. So won't the real Slim Shady please stand up? Please stand up, please stand up.
Yes, there's a Slim Shady in all of us. Hopkins, let's all stand up.
Radio Campus Tour 99.5
et sur internet radiocampustour.com.